Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Je vais lire ce verset dans la traduction Parole vivante, peut-être certains l'ont. La traduction biblique Parole vivante. Romains chapitre 10, verset 17, et ça va s'afficher derrière moi, mais c'est en traduction, non, Parole vivante. Merci beaucoup. Voilà. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'Évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Alléluia. On peut relire ce verset ? Très important. L'apôtre Paul dit, la foi naît, elle prend naissance, lorsqu'on entend, comme c'est le cas ce matin, prêcher l'Évangile. Et le message qui va susciter la foi, ou qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Jésus-Christ, s'appuie, le message, sur sa parole, et sur la venue de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Alors la foi, non seulement prend naissance, mais après elle se fortifie, elle grandit, elle se développe. C'est la raison pour laquelle que Dieu a décidé de nous parler. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu nous demande d'écouter. Quand nous lisons les trois premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, livre de la révélation de Jésus-Christ concernant les derniers temps, car le mot Apocalypse veut tout simplement dire en grec révélation. Et quand nous lisons les trois chapitres du livre de l'Apocalypse, nous nous rendons compte qu'à plusieurs reprises, lorsque Jésus, par l'intermédiaire donc de l'apôtre Jean, qui est sur l'île de Patmos, et l'intermédiaire de tous ceux qui sont les responsables d'Église du premier siècle, Jésus va leur écrire certaines choses. Mais à un moment donné, il lui répète à chaque fois ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez des oreilles ? On en a deux. Quelqu'un m'a dit qu'il en avait trois. Il y a une anomalie. Deux oreilles pour bien écouter. Parfois, on a quelques problèmes d'audition, on peut être aidé. Ou, même si l'on est sourd ou malentendant, on peut quand même entendre la parole de Dieu ou quelqu'un parler par ce qu'on appelle la LSF, le langage des signes français. Ceci étant dit, Dieu nous demande d'écouter, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a décidé de nous parler pour que nous puissions vivre par la foi. La parole, le fait de parler, est un bon remède. En psychologie, quand quelqu'un est dans le cadre d'un traumatisme, on va lui demander de parler. On va lui demander de s'exprimer, de dire tout ce qui est difficile à vivre, tout ce qui l'a traumatisé, tout ce qui l'a mis dans une situation peut-être même de torpeur, d'angoisse. J'ouvre une parenthèse, j'espère que ça nous arrivera jamais, mais quand quelqu'un ou plusieurs personnes sont confrontées à un acte terroriste, comme c'est arrivé dans un supermarché, dans quelque endroit que ce soit, si vous arrivez à y échapper, pardonnez du peu, aussi fort que vous vous sentez, vous serez traumatisé. Surtout si vous voyez des gens être tués à côté de vous. Et les personnes qui ont vécu cela, elles ont besoin d'être prises en charge. Soit parce qu'elles ont été témoins, soit parce qu'elles ont été blessées dans leur corps. Et il y a ce qu'on appelle des cellules psychologiques. Dans certains corps de métier également, l'armée, la police, la gendarmerie, les pompiers, tous les métiers qui sont confrontés à de grandes situations assez importantes, assez douloureuses, etc. Donc on a besoin de parler. On a besoin de parler. La parole, et c'est un bon remède. Quelqu'un a dit ceci, parler, c'est guérir un peu. On a besoin de parler. Dieu nous a créés avec cette possibilité de s'exprimer, de parler les uns avec les autres, de partager. Mais je dirais que Dieu lui-même veut nous parler, non pas qu'il ait besoin d'une aide psychologique, mais lui, par sa parole, c'est pas une parole où il y a là une démarche, je me décharge, j'ai un problème, je viens de le dire, Dieu n'est pas dans ce cadre-là comme nous, mais sa parole, la sienne, elle a un pouvoir de guérison. La parole de Dieu, elle a le pouvoir d'augmenter, de donner, de susciter la foi, cette confiance dont on a besoin spirituellement dans notre marche avec Dieu. La parole donc est un bon remède, surtout quand il s'agit de la bonne parole. Et l'évangile, c'est une bonne parole. L'évangile, le mot grec, veut tout simplement dire une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça fait du bien, les bonnes nouvelles? Gloire à Dieu. Ces derniers jours, notre petite fille a été gravement malade. Vous savez pas tout. Elle a été atteinte d'un parasite dans les intestins. Très grave. Et donc les chrétiens ont prié là-bas à Marseille, nous avons prié avec mon épouse, et il n'y a pas longtemps notre fille nous a appelés et elle nous a dit « Naomi est guérie ». Et nous avons entendu une bonne nouvelle. Et ça réjouit le cœur. Gloire à Dieu. Et on a rendu grâce au Seigneur. Quand c'est la bonne parole, c'est un bon remède. Alléluia. Gloire à Dieu. Une parole, une bonne parole, est comme une eau fraîche pour celui qui est fatigué, qui a soif. Et les hommes, l'humanité qui est la nôtre, et vous peut-être ce matin, je suis convaincu que vous avez soif. Qui n'a pas soif? Je ne parle pas sur le plan physique, mais je parle sur le plan spirituel. Combien c'est difficile de vivre sur cette terre en n'ayant personne à qui parler. Ou personne qui nous parle. Alors c'est peut-être pas votre cas, c'est pas là votre situation, mais permettez-moi de vous dire, et vous le savez pour certains d'entre vous, parce que peut-être vous en avez entendu parler, mais que tant de gens, des plus jeunes jusqu'à des plus âgés, sont parfois dans cette situation, ils ne savent plus à qui parler. Plus personne ne leur parle. Mais d'arriver dans des maisons, suite à une demande de visite, personne qui ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus comme sauveur, mais qui nous ouvrait la porte de sa maison, de leur maison, pour parler avec eux. D'arriver, de voir la personne toute seule, et de voir dans le salon la télévision allumée, presque à fond, dans la chambre, le poste de radio allumé presque à fond. C'est-à-dire que la personne, elle comprend pas ce qui sort de ces deux postes. Mais de lui dire, mais madame, est-ce qu'on pourrait baisser le son pour qu'on puisse parler? Ah oui, excusez-moi. Elle ne s'en rend même plus compte. Et elle dit, mais et sérieusement, madame ou monsieur, de dire, je fais cela tout simplement parce que ça me tient compagnie. C'est triste, hein? Ça me tient compagnie. J'ai personne à qui parler. Personne ne me parle. Quand des gens parlent, c'est pour dire des banalités, pour dire des bêtises, des choses qui servent à rien. Si c'est pour parler de la météo, pardonnez-moi, mais ça ne tient pas la route, elle change tout le temps, ils ne savent pas ce qu'ils racontent aussi. Mais des banalités. On a besoin d'être entendu. On a besoin d'être écouté. On a besoin d'écouter certaines personnes qui vont avoir les paroles justes, appropriées. C'est difficile de vivre dans ce monde en n'ayant personne à qui parler ou qui nous parle. Combien il est douloureux de vivre avec un fardeau dont on ne peut pas ou dont on ne veut pas parler. Je connais bien des personnes, et j'en ai rencontré bien d'autres, et c'est pas terminé, qui se verrouillent et qui ne veulent pas parler. Il n'y a rien de plus terrible que cela, parce que ça ronge à l'intérieur. On ne règle pas les problèmes quand on n'en parle pas. Bien sûr qu'on ne peut pas en parler avec n'importe qui. Je parle de certaines choses, certaines situations. Mais on peut déjà en parler avec Dieu. Alléluia. On peut en parler donc avec Jésus. Il a dit, faites-moi connaître tous vos besoins. Déchargez-vous, dit le Seigneur, sur moi. Je vais prendre soin de vous. Faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières, des supplications, parfois il y a des larmes, avec des actions de grâce, bien sûr, le remercier. Et la paix de Dieu qui surpasse, je vais revenir sur le mot, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors garde mon cœur, garde mes pensées dans la personne de Jésus. Mais dans le cadre de l'Église, il y a aussi les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les ministères dons de Christ qui sont là pour aider et qui sont tenus par le secret de la confession. Il n'y a rien de plus terrible, plus de douleur. Rien de plus douloureux que de vivre avec un fardeau dont on ne peut pas ou dont on ne veut pas parler. Il n'y a rien de pire que le refus de dialogue entre les gens. Chacun campe sur sa position. Alors ça ne règle rien du tout. Ça ne fait que augmenter le problème. En définitive, l'absence de parole peut également traduire l'indifférence. L'absence de parole peut traduire l'hostilité. L'absence de parole peut traduire tout simplement une absence de communication. Et alors, ça entraîne des difficultés relationnelles. Et pour nous montrer son désir, le Seigneur, de nous tendre la main, nous montrer sa volonté d'avoir ce contact avec nous, Dieu a décidé de nous parler. Alléluia. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est que Dieu ne lui parle plus. Alors, vous allez dire, mais pasteur, c'est quand même assez contradictoire. Vous dites que Dieu a décidé de nous parler. Oui, j'insiste. Ça fait déjà longtemps qu'il vous parle. Et rien que depuis le début de ce culte, je n'ai pas dit depuis le début que je prêche, même avant que vous arriviez dans le cadre de ce lieu de culte, déjà il vous parlait. Et je comprends que dans le livre de Job, qui va passer par des moments terribles. Dieu lui fait comprendre qu'il est celui qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, par des visions, par des songes, comme il veut. Mais le texte est clair, le texte est clair, c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Vous avez remarqué qu'on est très distrait. Même quand on dialogue entre nous, ça m'arrive. J'écoute parler quelqu'un, puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, boum, il y a un autre truc qui rentre, et je pense. Et d'un seul coup, je m'arrête et je dis, Laurent, et je fais répéter la personne, je dis, excusez-moi, je n'ai pas bien compris, je m'entends. Parce que je n'ai pas bien écouté. On est très distrait. La montre nous distrait. La pendule. Nos soucis peuvent nous distraire. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher d'écouter. La Bible nous dit d'être prompt à écouter. C'est Jacques dans son épître qui le dit. Être prompt à écouter et lent à parler. C'est difficile pour des méridionaux comme nous. Méridionaux, français, et puis après, il y a les Italiens. Oh, les Italiens. Les Italiens. Alléluia. C'est le Sud. Mais revenons sérieusement à ce que nous dit la parole, être prompt à écouter. Je vais vous poser une question. Combien de temps passez-vous à prier, à parler, à demander à Dieu, et combien de temps passez-vous à l'écouter? Là, vous pouvez répondre pour vous-même. Est-ce que quand vous avez prié, je demande, Seigneur Jésus, alléluia, ta-ta-ta, ça va durer une demi-heure, une heure et demie, deux heures, je ne sais. Et quand vous êtes à l'arrêt du temps de prière, comment vous faites? Vous vaquez à vos occupations, puis c'est terminé? Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Eh oui, Annie, il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Alléluia. C'est calme la nuit. Peu importe le moment, la nuit, le jour, l'après-midi, Dieu parle. Alors il ne va pas parler peut-être d'une manière audible, mais il suffit d'ouvrir la Bible, il nous parle. La foi vient de ce que l'on entend. Quand j'ouvre la Bible, j'entends Christ me parler. Alléluia. Quelqu'un disait un jour, un des enseignants que nous avons eu à l'école biblique, il disait ceci, « Quand vous allez lire la parole de Dieu, lisez-la avec les oreilles. » C'est très étonnant. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire écouter ce que Dieu me dit. Pas lire pour lire. Pas écouter un message, et puis j'en écoute, et puis je retourne chez moi, et puis ça ne fait aucun effet, parce que j'écoute pas vraiment. La parole de Dieu a une particularité, c'est qu'elle est vivante. Mais elle est vivante pour un cœur qui désire en recevoir la substance. Alors à ce moment-là, si c'est le cas, elle est vivante. Mais sinon, ça peut devenir une lettre morte. Parce que je ne l'écoute pas. Parce que je ne la reçois pas avec un cœur ouvert. Parce que je ne prends pas le temps de l'écouter. C'est important pour mon âme. C'est important pour ma vie humaine. C'est important pour que je continue à aller de progrès en progrès, pour que mes progrès soient évidents de tous, et déjà de Dieu, qui connaît tout. La pire des choses qui puisse donc arriver à quelqu'un, c'est que Dieu ne lui parle plus. Donc ce n'est pas paradoxal, ça peut arriver. Je prends un exemple dans la Bible. 1 Samuel, chapitre 28. Les Philistins vont se rassembler pour faire la guerre à Israël. Et ils vont se mettre là, en place à Gilboa. Et à Gilboa, ils vont attendre, et à la vue du camp des Philistins, Saül va être saisi de crainte et de violents tremblements se sont emparés de son cœur. Et l'Écriture nous dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a consulté l'Éternel. La démarche est excellente. C'est exactement comme cela qu'il faut faire. Mais il est écrit que l'Éternel ne lui a pas répondu, ni par les songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Bref, il ne lui a pas du tout répondu. Il a tout essayé pour avoir la réponse de Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à Saül ? Tout simplement, parce que Saül n'était pas dans la position spirituelle que Dieu attendait de lui. Saül était dans une position de désobéissance. Et quand Dieu voit la désobéissance, il ne peut pas répondre. Ou on n'est plus capable d'entendre Dieu nous parler. Pourtant, il est dans la détresse. Le contexte nous le montre. Il cherche à recevoir une réponse de Dieu par rapport aux Philistins qui sont là, qui veulent attaquer Israël. Mais Dieu ne lui apporte aucune réponse. Et regardez, au lieu de s'humilier devant Dieu, au lieu de dire « Seigneur, tu me parles pas, tu me réponds pas, alors qu'autrefois tu le faisais », et de se remettre en question, de s'examiner lui-même et de dire « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché, j'ai besoin de ton aide, secours-moi dans ta grâce ». Il aurait pu prier simplement comme cela. Au lieu de faire cela, il va rajouter au problème qui est déjà dans sa vie. Il va aller plus loin dans sa désobéissance. Car le texte nous dit que alors il s'est tourné vers un médium. Il s'est tourné vers une personne qui pratique des actions qui sont, dit l'Écriture, en abomination aux yeux de Dieu. Des choses que Dieu réprouve, dans lesquelles Dieu ne se trouve pas, mais dans lesquelles le diable se tient. À la différence, c'est que malgré tout, Dieu va permettre que cette fois-ci, ça ne soit pas un mauvais esprit qui se manifeste, ce que la médium elle-même avait l'habitude de faire et de vivre. Mais à ce moment-là, l'Écriture nous dit que c'est Samuel qui apparaît, le prophète, qui était décédé quelque temps auparavant. Dieu ne permet jamais cela. Quand les médiums trafiquent, quand il y a la nécromancie, ce sont les esprits mauvais qui se manifestent, qui prennent la voix des défunts, qui s'amusent, ils ont un certain pouvoir, et ils l'utilisent pour tromper l'humanité et pour les détourner de la vérité qui est en Dieu et en Jésus-Christ. Pour qu'ils ne tournent plus l'oreille vers Dieu, mais qu'ils tournent l'oreille vers le diable qui est un menteur. Mais ce jour-là, Dieu a permis d'une manière extraordinaire que ce soit Samuel qui apparaisse, et même la médium, elle va pousser un cri de frayeur parce que ça ne s'est jamais produit. Elle sait qu'il y a là quelque chose qui ne vient pas d'elle. Dieu est en train d'intervenir pour montrer à Saül qu'il est dans une situation de mort. Et Samuel lui-même va lui parler. Dieu le permet. Et même là, il n'écoute pas. C'est terrible. En définitive, persévérer dans un chemin d'impiété, persévérer dans un chemin de péché, persévérer dans un chemin de désobéissance va couper la relation avec Dieu. maintenir dans son cœur des attitudes qui ne sont pas à sa gloire et qui ne ressemblent pas à ce qu'il est. Et pourtant, nous devons avoir en nous cette nature réelle de Christ, puisqu'il est en nous par son esprit au moment de la nouvelle naissance. Alléluia. Mais si je me détourne, alors il y a une coupure. Le péché nous coupe de Dieu, sous quelque forme que ce soit. Ne croyez pas que Dieu vous a laissé tomber. Dieu ne laisse tomber personne. C'est l'homme, par son péché, qui laisse tomber Dieu. C'est l'homme, par sa désobéissance, qui se détourne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est détourné des hommes. C'est les hommes qui se détournent de lui. Et il n'y a rien de plus terrible qu'un croyant qui connaît la vérité aille au-delà de ce que Dieu lui demande de recevoir, de faire et de vivre. Notre relation avec Dieu, c'est une bénédiction extraordinaire. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Je vais y revenir. Voyez-vous, les conséquences tragiques de l'absence de la parole de Dieu, c'est que, on le voit chez Saül, ça amène des troubles terribles. Mais ce n'est pas le seul exemple dans la parole de Dieu. J'en prends un deuxième. Le deuxième exemple que je vais prendre se trouve dans le deuxième livre des Chroniques. Au chapitre 15. Au chapitre 15. Et verset 3, nous lisons, au même verset premier, « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, « Écoutez-moi, Aza et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Il est en train de rappeler ceci, Azaria, ce prophète, que à un moment donné de l'histoire d'Israël, il le rappelle à Asa, le roi. Il lui dit, rappelle-toi de ce temps où il n'y avait plus, mais alors plus du tout, Dieu qui parlait. C'est les jours d'autrefois. Pourquoi Dieu ne parlait-il plus ? Parce que le peuple tout entier, en cette période, avait été infidèle. Et il va faire donc ainsi particulièrement allusion, le prophète, à la période des juges. Où par la désobéissance d'Israël, avait régné le plus complet désordre. Il n'y avait pas de paix. Pour ceux qui sortaient, qui entraient. Il y avait beaucoup de troubles parmi tous les habitants du pays. La nation se brisait contre nation, ville contre ville. Dieu les troublait par toutes sortes d'angoisses. Dieu, l'Éternel, la sacrificature dans l'Ancienne Alliance, c'était le cas, la loi de Dieu, avait totalement dans cette période-là disparu. Pour ainsi dire, complètement disparu. Chacun était devenu une loi pour lui-même, imposant sa loi aux autres. En définitive, c'était une période d'anarchie, une période de chaos, une période de désordre, une période où il n'y avait pas, tout simplement, la parole de Dieu. Et quand il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas Dieu. C'est moi qui vous parle, Laurent Lenoir, donc je suis là. Vous allez me dire, on pourrait vous entendre par le biais d'un CD. Enfin, ça représente quand même ma personne. Mais Dieu n'était pas là. De par sa parole, chacun était une loi pour lui-même. C'était le règne de l'iniquité. Le règne de l'iniquité. Alors, le peuple, à ce moment-là, je rappelle cette période, elle est très importante par rapport au texte qu'on vient de lire. Alors, le peuple dans son angoisse, a cherché le secours de Dieu. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Mes frères et sœurs, Dieu est patient. Alléluia. Et chaque fois que ses enfants crient à lui, avec un cœur repentant, Dieu fait preuve de miséricorde. Il est prêt à les délivrer du jugement, de l'oppression, du péché, en suscitant des hommes qui vont être remplis de l'Esprit, qu'il va conduire, qu'il va diriger, qu'il va poser là, à un lieu précis, animé de sa puissance. Quand vous comptez combien de juges il y a eu, dans toute cette période, il y en a eu, en tout et pour tout, 13 juges. Je cite leurs noms, comme ça au moins, ça va vous rappeler certaines choses pour certains. Il y a eu Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah et Barak, Gédéon, Tola, Jaïr, Jephté, Ibtsan, Elon, Abdon et Samson. Et les ministères de certains juges se sont chevauchés. Déborah et Barak étaient ensemble, et heureusement qu'il y avait Déborah. Dieu a suscité ces hommes et cette femme pour que, à un moment donné, parce qu'ils revenaient, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient plus vivre dans cette anarchie, dans ce chaos, loin de toute parole qui fait du bien, loin de toute parole qui guérit, loin de toute parole puissante et de la présence de Dieu, alors ils se sont tournés vers l'Éternel, ils se sont humiliés, ils ont demandé pardon, et là le contact a été rétabli. Peut-être quelqu'un se rend compte que le contact est coupé. C'est pas Dieu qui parle plus. C'est qu'il y a un problème dans votre vie. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. La main du Seigneur est étendue. Les portes sont ouvertes, mais vous ne les voyez même plus qu'elles sont ouvertes. Il suffit de dire Seigneur, mais je veux t'entendre et je veux écouter à nouveau. Je veux recevoir à nouveau. Je veux vivre des temps de rafraîchissement. Je veux de nouveau vivre dans ta bénédiction. Je veux de nouveau être au bénéfice de tes promesses. Dieu est patient. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Alléluia. Dieu est vraiment merveilleusement fidèle. La fidélité de Dieu est grande. Heureusement. Mais voyez-vous, il n'y a point de paix. C'est terrible quand il n'y a plus de paix. Dans l'abandon de Dieu, il n'y a point de repos, ni de paix pour les méchants, dit Ésaïe. C'est Ésaïe le prophète qui le dit dans l'Écriture. Mais il y a trouble sur trouble. Au contraire, du moment que le roi revient, et Asa, c'est ce qu'il va faire. Je reviens au texte de tout à l'heure. J'ai vu tout cela parce que c'était important. Quand Asa enfin comprend, alléluia, qu'il ne faut pas retomber dans les mêmes travers qu'autrefois pour laisser la parole de Dieu pénétrer son cœur et le cœur du peuple. Alors, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, elle est bonne, agréable et parfaite, alors la paix et le repos se réinstallent. Qui manque de paix? Qui manque de repos ce matin? Qui n'en peut plus? Alors, dites à Dieu, Seigneur, je désire qu'il n'y ait rien entre moi et toi qui se mette en travers. Et de lui dire, parle-moi. Parce que aussitôt que le roi Asa a entendu les paroles de la prophétie, il nous est dit dans le texte, vous le relirez, il se fortifia. J'aime ce mot. Il se fortifia, alléluia. Et nous trouvons ici un nouveau caractère de force qui ne consiste pas, comme précédemment, et je reviens sur le contexte, chapitre 15, chapitre 14 de Chroniques, eh bien, dans la victoire sur les Éthiopiens, ils venaient de vivre une grande victoire. Mais là, c'est dans une démarche de purification pratique. Parce que ça va les amener à faire quoi? Ça va les amener à faire disparaître les choses abominables de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'ils avaient prises de la montagne d'Éphraïm. Chapitre 15, verset 8. Et il en est de même pour nous, mes frères et sœurs. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je ne suis pas en train de raconter une histoire. Je suis en train de vous prêcher la parole. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'écoutez? Ou est-ce que vous êtes pressé de rentrer chez vous? Il en est de même pour nous. C'est très important. Tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu, tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu, toute souillure, doivent être résolument bannis de nos vies. Afin que nous puissions jouir d'une communion sans mélange avec le Seigneur. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, mes amis, elle ne comporte pas le laisser-aller. Non, elle comporte cette expression « fortifiez-vous ». Nous dit la parole de Dieu, dit le prophète Azaria à Asa et au peuple. Judas et Benjamin. Nous avons à notre disposition, mes bien-aimés, la force. Elle vient d'en haut. La puissance, elle vient du Saint-Esprit. Et tout cela appuyé sur le rocher qui ne bouge pas, qui ne branle pas, qui ne remue pas. C'est la parole. Et quand je dis la parole, c'est Dieu en Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair. Elle est là dans mon cœur, elle est là dans ma vie. Je m'y appuie, j'y appuie ma vie. Amen. Et le reste ne m'intéresse pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris cela, à ce moment-là, je deviens un instrument de bénédiction pour ma famille, pour mes enfants, pour mon époux, pour mon épouse, pour mes amis, pour ceux que je côtoie et pour l'église locale dans laquelle je me trouve. La parole. La parole. C'est pas la parole qui est à notre service. Nous sommes au service de la parole. Je ne dois pas me servir de la parole pour faire passer mes idées. C'est la parole de Dieu qui revêt mon cœur de l'idée de Dieu et de la pensée de Dieu que je communique. Rien ne peut nous manquer quand on a la parole et qu'on l'entend. Il faut mettre cette force qui en découle à profit. Voyez-vous, la raréfaction, pardonnez-moi, de la parole de Dieu vient de ce que les personnes, pour l'écouter, sont de plus en plus rares. Et je prends un autre exemple. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, versets 1 et 2. Et là, c'est clair. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 et 2. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le jeune Samuel et lui dire « Samuel, Samuel ». Et il va répondre « Me voici ». Alors il va courir vers le sacrificateur Élie, auprès de qui il est là pour aider dans le service. Et il va lui dire, sacrificateur Élie, vous m'avez appelé, tu m'as appelé, je suis là. Mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Ça va se reproduire une deuxième fois. Et là, à un moment donné, il va lui dire, écoute, c'est pas moi, c'est Dieu qui te parle. Écoute-le. Et quand l'Éternel, une fois de plus, vient vers Samuel, 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 là, il dit, parle, parle, ton serviteur écoute. J'aime cette expression. Vous pouvez l'utiliser, utilisez-la, parle, Seigneur. Parle-moi ce matin. Il le fait peut-être, j'espère. À vous d'écouter. Il peut le faire par un don spirituel, il va le faire peut-être par un songe, il peut le faire par une vision. Rien n'est impossible à Dieu, et dans cette réalité de la vie de l'esprit, de la puissance de l'esprit, tout peut arriver. Dans le sens biblique, Dieu parle. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Mais il veut s'adresser à nous surtout par sa parole. Elle a été écrite pour chacun d'entre vous, d'entre nous, pour tous les hommes. Et l'attitude de Samuel est celle que nous avons à prendre chaque fois que nous ouvrons notre Bible. J'ai bien dit chaque fois que nous ouvrons la Bible. Parle-moi, Seigneur, ce matin. Parle-moi ce soir. Parle-moi, là, cette nuit. Ton serviteur et ta servante écoute. Mais mes frères et sœurs, c'est bien. Mais encore écoutez bien ce que je vais vous dire. Encore faut-il être prêt à faire ensuite ce que le Seigneur nous aura dit. Ah ! Ah ! Ah ! Parce que à partir du moment où il va vous parler comme il le fait à chaque fois que vous ouvrez la parole, si vous l'écoutez, il va peut-être vous dire certaines choses qui ne vous feront pas toujours plaisir. Ah ! Il va peut-être même, si vous n'avez pas voulu m'écouter, par exemple, ça peut arriver, il va se servir de quelqu'un d'autre pour vous rappeler ce que moi j'ai dit, et il va vous le redire. Ah ! Et si vous n'écoutez pas cette autre personne comme Dieu vous aime, il va prendre une autre personne et il va vous le répéter encore. Ah ! Jusqu'au moment où vous allez dire, Seigneur, c'est bon, j'ai compris, je capitule. Ah ! Enfin, on est lent à croire, on est lent et dur à comprendre, comme les deux disciples d'Emmaüs. Mais Dieu soit béni, il est patient. Alors, il veut que nous nous mettions à son entière disposition et de demander, comme l'apôtre Paul, aussitôt qu'il a été converti, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Vous posez encore la question à Jésus. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et le Seigneur va vous répondre, « Bêche ton jardin. Va faire du vélo. Regarde la télé. » Il y a un temps pour tout. Je peux bêcher mon jardin, aller faire du vélo, regarder la télé. Mais là, le Seigneur me demande peut-être autre chose. C'est David Wilkerson qui est devenu cet instrument pour le salut de Nicky Cruz. Et l'histoire de cet homme est simple. Cet homme était un homme qui servait le Seigneur dans un milieu rural aux États-Unis, dans une petite assemblée, petite église. Et un jour, alors qu'il était en prière, il a dit certainement, et c'était un homme avec un cœur pour Dieu, il dit « Seigneur, parle-moi, instruis-moi, montre-moi ce que je dois faire. » Et le Seigneur lui a dit « Vends ta télé. » Ah non, j'en ai besoin. Vends ta télé. Il n'a pas compris sûrement. Puis en réfléchissant, en prenant le temps, il avait compris qu'en définitive, c'est pas la télé qui était un problème. C'est lui qui avait et qui utilisait la télé comme étant devenu un problème par rapport à sa vie spirituelle parce qu'il passait plus de temps devant la télé que devant Dieu. Alors il a obéi, c'était pour lui un piège cette télévision, pour vous ça peut être autre chose. Mais il a obéi, c'était personnel, Dieu n'a pas dit ça à tout le monde, il a dit ça à Monsieur Wilkerson. Il a obéi, il a vendu sa télé, ou je ne sais pas ce qu'il en a fait, et effectivement n'ayant plus la télé, il avait un peu plus de temps. Et ce temps il l'a utilisé pour prier encore plus. Et en priant encore plus, C'est là que Dieu lui révèle qu'il faut qu'il se rende à New York, dans les bas-fonds, etc. Et vous connaissez ensuite la suite de l'histoire de la conversion magnifique de Nicky Cruz. Dieu était à l'œuvre au travers de cet homme et sont nées les œuvres de Teen Challenge. Gloire à Dieu aux États-Unis. On en a quelques-unes en France également. Il y en a en Italie, il y en a au Portugal, il y en a partout en Europe. Mes frères et sœurs, je n'ai pas dit que la télé prend votre temps. Peut-être. Mais ça peut être autre chose. Le jardin, bêche, le vélo, tac. Et j'en passe. Et oui, chacun sait pour lui-même. Mais ce que le Seigneur vous demande, puisque la parole est importante, la foi, elle vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vous comprenez très bien que pour avoir la foi, ou pour que la foi grandisse et plaise à Dieu, et vous permette de transporter, comme dit même l'Évangile, c'est une belle image, forte, jusqu'à des montagnes, mes frères et sœurs, alors rien ne vous serait impossible, parce que vous prenez le temps de chercher la face de Dieu. Parle ton serviteur, parle ta servante, écoute, alléluia, alléluia, alléluia. Et heureusement qu'il y a encore des jeunes Samuel. Heureusement qu'il y a encore des Paul. Et il y en a, Groyer. Et il va y en avoir encore. Qui vont dire, Seigneur, je suis à ton écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, prends ma vie, sers-toi de moi, dit un chant, ce que je suis. Non pas, est à moi, mais est à toi. Il peut nous parler. Quel que soit le moyen choisi par Dieu, nous avons tous besoin que Dieu nous parle. Elle est réelle aujourd'hui, cette parole. Parce que le Christ a fait ce qu'il fallait faire. Il est la manière par excellence, et je vais terminer, que Dieu a choisi pour adresser sa parole au monde. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er au verset 3, il nous est dit que dans les temps passés, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, après avoir parlé par le moyen de tant d'instruments divers, les prophètes, entre autres, de l'Ancienne Alliance, Dieu a fini maintenant dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, maintenant, en ce jour, amen, il finit et il continue par parler, par s'adresser à nous, par son propre Fils, Jésus. Parce que lui-même, je l'ai dit, je le répète, il est la parole. La pleine et définitive révélation de Dieu. Amen. Alors, je n'ai pas le temps de développer le reste, mais je vous le donne si vous prenez des notes et vous allez faire vos propres recherches. C'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu ce matin et vous avez un devoir maison. C'est bien ça, hein ? Pratique. Et vous allez vous rendre compte que les exemples, je vais citer les noms et les textes, c'est-à-dire que je ne développe pas, j'explique pas, c'est à vous à travailler. Vous êtes prêts à travailler un petit peu à la maison? Oh là, il n'y a pas eu un oui trop nutriant, hein. Seigneur Jésus, donne-moi de la patience. Les personnes que je vais citer avec les textes qui correspondent n'étaient pas des êtres mystiques. Parce que quand on dit à quelqu'un « Dieu m'a parlé », ils sont mystiques. Ben non. J'ai dit, il parle en premier par sa parole. La Bible. Mais leur témoignage et leur vécu nous montrent la confirmation que quand Dieu parle, sa parole relève, ou je vous dis juste ça, elle instruit, elle console, elle dirige, elle nourrit, elle révèle, et elle fait connaître sa volonté. Première personne, Agar, l'Égyptienne, Genèse chapitre 16. J'ai dit, je ne développe pas, hein, j'ai pas le temps. Bon, j'ai tout là, mais Dieu m'a permis d'appuyer sur autre chose. Genèse 16, Agar. Deuxième exemple, Daniel, le livre du prophète Daniel. Daniel, chapitre 10. C'est un devoir maison, là, hein. Troisième exemple, Pierre, l'apôtre. Matthieu, chapitre 14, versets 28, 29 et les versets qui suivent. Quatrième exemple, Paul. Acte 9. Appuyé par le témoignage de Pierre, Matthieu 16, versets 16 et 17. Et puis, le dernier exemple, c'est la femme courbée. Luc chapitre 13. Et pour vous aider sur ce dernier exemple, je souligne ceci quand vous allez regarder le texte, écoutez bien. C'est que quand Jésus lui parle à cette femme, alors qu'elle est courbée, il va lui dire, lui déclarer ceci, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et je vous demanderai, en voyant ce dernier exemple, en l'étudiant par rapport à la parole de Dieu qui nourrit, qui relève, qui guérit, etc., par l'expression « tu es ». Tu es. Tu es. Et si la parole de Dieu nous dit « tu es », nous devons confesser en retour par la foi, puisque c'est la parole qui nourrit la foi, qui suscite la foi, nous devons confesser par la foi que nous sommes. Amen. Point de suspension. Quand vous aurez fait le devoir maison, vous me dites, pasteur, j'ai terminé, et vous me faites un petit rapport. Si vous voulez. Je ne vais pas venir vous voir pour dire, tu l'as fait. Non, non, c'est libre. Devoir libre. Mais faites-le. Et peut-être pour quelqu'un qui écoutera la prédication sur le site, peut-être un prédicateur, je lui donne l'autorisation de prendre ses points et pourquoi pas de prêcher là-dessus pour faire du bien à ceux qui l'écouteront. C'est le fruit de mon travail, mais je le partage. Dieu vous bénisse. On va rendre grâce au Seigneur. J'espère que vous avez saisi ce matin ces bonnes choses et ça va vous faire progresser. Je veux te bénir et te rendre grâce, Père. Parce que je sais que tu fais tout à merveille. Et Seigneur, nous avons en effet besoin, tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, que tu nous parles. Seigneur, fais-le. Je te le demande avec, Seigneur, autant d'aplomb, parce que de toute manière, on ne peut pas faire autrement, on en a besoin. Je veux te remercier de ce que tu m'as permis d'apporter, cette parole que tu m'avais déjà donnée. Car on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Et je veux te bénir parce que je sais que tout ce que tu as permis qu'il soit développé par l'action de ton esprit, en s'appuyant sur ta parole, sur les exemples bibliques que nous avons utilisés ce matin, puisse continuer ces exemples et ta parole, son œuvre, pour que ceux qui avaient besoin de changer de pas, d'attitude, de direction, puissent avoir décidé de le faire et l'avoir même déjà fait, au nom de Jésus. Parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Amen.